Allô, allô, ici Anthony Billot. Bienvenue dans ce nouveau numéro dernier de Comment ça va le monde sur la question de l'énergie, toujours en compagnie de Valentin Vinci. Valentin, bonjour.
Bonjour Antoine.
Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement.
Aujourd'hui.
Vous êtes sérieux, là ?
Oui, je suis sérieux.
Je tiens à préciser que vous ne l'aviez absolument pas dit avant de rentrer dans ce studio. Bien au contraire.
C'est la décision la plus douloureuse, que personne n'en tire profit, parce que la responsabilité, elle est collégiale, elle est collective, elle est sociétale. Et j'espère que cette décision qui est lourde, qui me bouleverse, qui est mûrie depuis de longs mois, ne profitera pas à des joutes ou à des récupérations politiciennes, mais à ce que notre société se retrouve sur l'essentiel. J'ai une immense amitié pour ce gouvernement auquel je m'excuse de faire une mauvaise manière, mais sur un enjeu aussi important, je me surprends tous les jours à me résigner, tous les jours à m'accommoder des petits pas, alors que la situation universelle au moment où la planète devient une étuve mérite qu'on se retrouve et qu'on change d'échelle, qu'on change de scope, qu'on change de paradigme. Et c'est donc une décision qui était un véritable dilemme entre soit m'accommoder des petits pas, en sachant que si je m'en vais, je crains que ça soit pire, soit rester, mais donner ce sentiment que par ma seule présence, nous nous mettons en France ou en Europe dans une situation d'être à la hauteur sur le pire défi que l'humanité n'a jamais rencontré. Et je décide de prendre cette décision qui est une décision d'honnêteté et de responsabilité. Et j'insiste bien, je ne souhaite que personne ne récupère et ne fustige le gouvernement, parce que, à l'observation, c'est l'ensemble de la société, et je peux m'y mettre également, qui portons nos contradictions. Peut-être n'ai-je pas su convaincre, peut-être n'ai-je pas les codes. Mais je sais que si je repars pour un an, nous aurons quelques avancées, mais ça ne changera pas l'issue.
C'est Nicolas Hulot qui démissionne, qui part du gouvernement, qui était donc ministre de l'écologie, de la transition écologique, je crois.
Et solidaire,
le ministère. Ouais. Et part quand même en nous disant, d'où je suis là, cet endroit-là, j'arrête de faire semblant, en fait je peux rien faire. Donc, je vais faire autrement, et j'espère que l'acte aura un impact. En écoutant ça, j'ai envie de me dire, la seule solution, c'est déjà faire mes actes individuels comptent, ça c'est sûr, parce que c'est pour moi, parce que plus je m'entraîne à un acte de résilience, à prendre pour ce terme, et c'est l'engagement politique la seule solution.
Alors on s'en sort pas sans engagement politique. On parle de choses. Alors, on n'a pas parlé de parti, même si là, ça fait, on a quand même commencé à intuiter que c'était bien ça qu'il fallait. On parle de décision politique. Et depuis le début, on a opéré un glissement. On a commencé par parler de consensus scientifique. Ensuite, on a parlé technologie. On a vu que c'était insuffisant. Les solutions ne peuvent pas se situer là. Ou en tout cas, elles viennent après que la décision politique collective ait été prise. Ou quelles étaient les prises, avec plusieurs décisions. Il y a un paquet de trucs à faire. Oui, l'engagement politique est hyper important. Politique, ça ne veut pas dire partisan, déjà, c'est le premier truc, mais politique, ça veut dire qu'il va falloir discuter de comment est-ce qu'on fait société. Comment est-ce qu'on fait un système économique en entier, qui est durable, et en fait, peut-être que la réponse, c'est qu'on n'en a pas envie. Pourquoi pas, hein. Il faudrait juste décider tous ensemble. Pour l'instant, il y a plein de gens qui sont exclus de la décision. Il y a plein de gens qui sont exclus de la décision, et c'est tous ceux qui subissent les conséquences des décisions dont ils sont exclus. Ça pose un problème. En gros, on va faire simple, hein. C'est les gens qui n'ont pas, les gens qui subissent les conséquences environnementales
Donc des îles,
on peut parler des îles, donc les îles qui sont à 30 cm au-dessus du niveau de la mer et qui vont disparaître, c'est des gens qui n'ont pas pollué, qui n'ont pas émis de CO2. Historiquement, c'est ridicule. Ils sont exclus de la décision depuis le début. On leur a pas demandé leur avis, et pourtant ils subissent les conséquences. Voilà. Donc, il va falloir se poser ces questions. Ce serait beaucoup plus satisfaisant humainement, on va sortir les grands mots, philosophiquement, ce serait beaucoup plus satisfaisant de se poser ces questions ensemble et d'y répondre collectivement, et ensuite de voir où on va. Pour l'instant, les questions sont posées à très très peu de gens, qui apportent une réponse qui est on s'occupe pas de ces problèmes-là parce que ça ne nous concerne pas. Et c'est pas du tout, et ça, ce n'est pas satisfaisant. Bon. Donc, il va falloir refaire société. Ou faire, peut-être, parce que peut-être qu'on n'a jamais fait, au niveau, on est dans un monde qui est mondialisé de fait pour les flux et les échanges. Pour autant, on n'a pas fait société au niveau mondial. Va peut-être falloir faire ça. Ou alors, peut-être, démondialiser un peu pour refaire des sociétés de plus proches. Enfin, en tout cas, il va falloir imaginer des trucs nouveaux. Parce que là, pour l'instant, ça marche pas. Ça marche pas, on n'arrive pas à trouver des solutions. Et de fait, on n'a pas d'outil politique collectif de prise de décision qui est pertinent. Déjà que c'est très très délicat de parler des démocraties nationales, mais alors quand elles sont supranationales, on pourrait parler de la démocratie européenne. Ce serait très technique et pas pertinent parce que c'est pas mon domaine, mais on sent bien que ça marche mal. Donc il va falloir réinventer tout ça, réinventer les niveaux de décision. Il va falloir le faire vite, mais c'est passionnant comme défi. Enfin, et ce qui est génial, c'est que c'est passionnant et c'est pas quelque chose qui est réservé aux scientifiques, aux techniciens, aux ingénieurs du coup. C'est réservé à tout le monde. Enfin, c'est réservé à personne. C'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire du citoyen. Et moi, je trouve ça vachement plus intéressant en fait quand on tourne le problème comme ça.
La conclusion de cette série, de cette saison et de ces questions de l'énergie, qui sont évidemment centrales dans l'organisation de la société, ce serait quoi en fait? Ce serait c'est la façon dont on vit notre quotidien détermine la société dans laquelle on vit.
Oui, alors ça peut être ça. Ça peut être qu'on a des enjeux qui sont... Il peut y avoir plusieurs conclusions. Donc effectivement, l'énergie et son abondance et sa qualité influent sur notre quotidien. En retour, notre quotidien et la façon dont on vit, la façon dont on s'organise influent sur l'énergie. On aurait pu parler de dizaines d'autres trucs, de l'organisation du territoire, donc comment est-ce qu'on s'organise un peu plus que dans sa cellule personnelle, son ménage, sa famille, etc. Comment est-ce qu'on organise une ville, un quartier, un territoire plus grand? Comment est-ce qu'on l'organise, parce qu'on n'a même pas parlé de nourriture, mais bon, enfin, il faudrait 8 ou 9 épisodes pour parler de nourriture, d'agriculture, ce genre de trucs, comme je suis pas spécialiste, hein, pas une traite quelqu'un d'autre, ça changera un peu. Donc, il va falloir réinventer à plein de niveaux tout ça, ça c'est sûr. Donc, une des conclusions, ça peut être qu'effectivement, l'énergie est présente dans notre quotidien, et notre quotidien détermine la réalité énergétique, quelque chose. L'énergie, c'est pas qu'un truc individuel, c'est aussi un truc collectif. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. On a tendance à considérer les ressources comme appartenant à celles qui les ont trouvées, mais c'est pas vrai. Enfin, elles appartiennent à tout le monde et même on pourrait dépasser un peu les cadres de l'humanité. Enfin, allez, on va faire les gros hippies antispécistes, mais en fait le vivant en général est impacté par ce qu'on décide de ce côté-là. Donc comme ils ont du mal à voter, on devrait un peu essayer de prendre ça en compte. Et pas que l'être humain. Et alors surtout pas que l'être humain occidental, et surtout pas que le riche être humain occidental. Donc c'est quelque chose qui est collectif, et comme c'est collectif, ce serait bien qu'on prenne des décisions collectivement, et comme c'est impactant collectivement, c'est pertinent de prendre collectivement. Et donc du coup, Et les conclusions, en fait, elles sont multiples. C'est que ça, ça interroge la démocratie. La façon dont on le fait, mais peut-être même le concept. Parce qu'en fait, historiquement, il y a un certain nombre de gens qui pointent le fait que les différentes démocraties dans le monde, ce qu'on appelle les démocraties, elles ont émergé massivement quand l'énergie est devenue abondante. Ça interroge notre rapport aux droits sociaux.
On écoute maintenant Variation sur Marie-Lou de Serge Gainsbourg.
Son regard absent et son iris absinthe, tandis que Marie-Lou s'amuse à faire des volutes de sèches aux mentoles entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec le zip de ses Lévis. Je lis le vice et je pense à Carole. Dans son regard absent et son iris absinthe, tandis que Marie-Lou s'évertue à faire des volutes de sèches au matin, entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec son zip à entrebâiller ses Lévis. Dans son regard absent et son iris absinthe, dis-je, je lis le vice de Baby Doll et je pense à Lewis Carole. Son regard absent et son iris absinthe, quand crachent les enceintes de la sono lançant accords de cartes et de quintes, tandis que Marie-Lou s'esquinte, la santé s'éreinte à s'envoyer en l'air. Lorsqu'en un songe absurde, Marie-Lou se résorbe, que son coma l'absorbe en pratiques obscures. Sa pupille est absente, mais son iris absinthe, sous ses gestes se teinte d'extase sous-jacente. À son regard, le vice donne un côté salace, peu du bleu lavasse de sa paire de Lévis, tandis qu'elle exhale un soupir au menthol, un débile mental perdu en son exil physique et cérébral joue avec le métal de son zip et l'atoll de corail apparaît. Elle s'y coca-colle un doigt qui en arrêt au bord de la corolle est pris près du calice.
En situation de stress énergique, la démocratie pourrait disparaître.
Ça veut dire que c'est peut-être plus simple de maintenir une démocratie où... Alors après, il faut qu'on se mette d'accord sur les termes de qu'est-ce que c'est que la démocratie, est-ce qu'on est en démocratie, où, quand, mais c'est peut-être plus simple en situation d'abondance énergétique et de croissance, on va dire. De donner la voix à tout le monde et de satisfaire tout le monde. C'est peut-être moins simple en situation de stress, ou en tout cas ça se gère différemment, ou peut-être qu'il faudra trouver des idéaux communs un certain nombre de gens qui plaident pour l'instauration d'une mythologie commune pour arriver à dépasser ça. Et donc peut-être qu'il faudra régresser sur l'individualisme et puis recréer des corps cohérents de société avec des buts communs, ce qu'on n'a plus dans nos sociétés, enfin, ce qu'on n'a pas trop en France, ou plus trop en France, puisqu'on a quand même bien sécularisé la société, mais qui à un moment s'appelait la religion, ou qui a pu s'appeler le patriotisme, ou qui peut s'appeler le patriotisme ailleurs, etc. Et qui sont pas forcément des valeurs positives, mais peut-être qu'il faudra les construire, ces valeurs, peut-être qu'il faudra inventer des trucs. Du coup, la conclusion, c'est que, on arrive sur des changements qui sont tellement majeurs, qui sont tellement inévitables, qui sont suffisamment nombreux pour qu'on puisse pas se dire, bon, on arrivera à en éviter un, si on arrivera à en éviter un, on prendra l'autre, pour qu'il y ait tout à réinventer. Alors ça peut être paralysant, ça fout la frousse, hein, mais c'est peut-être aussi l'occasion de rediscuter un certain nombre de trucs qui sont pas satisfaisants dans notre société actuelle. Ça peut être l'occasion de faire ça. Et c'est un peu ce qu'ont demandé les Gilets jaunes. Et alors, on n'arrête pas d'en parler, mais ils sont arrivés avec une revendication sur le prix de l'essence, et au final, ils ont discuté 6ème République sur les ronds-points. C'est ça qui s'est passé. Et c'est exactement le cheminement qu'on vient de faire.
Tu parlais de l'organisation de l'aménagement de nos villes. Ça veut dire qu'il va falloir réaménager les villes autrement.
C'est une solution, réaménager les territoires, même pas que les villes, hein, les territoires, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on pense nos flux. Donc aujourd'hui, on est très dépendante de l'énergie pour se déplacer du point où on habite, en gros, enfin, le français, on va dire, un français, beaucoup de français ont cette problématique-là, c'est qu'ils habitent pas là où ils travaillent, loin de là où ils travaillent, donc qu'ils aient un accès à l'énergie pour se déplacer jusque-là. Il faut qu'ils aient ensuite un accès à l'énergie pour se déplacer jusqu'au lieu d'approvisionnement, qui sont loin et de leur lieu d'habitation et de leur lieu de travail, qui s'appelle en France aujourd'hui pour plein de gens un supermarché. Ils ont aussi besoin de cette énergie pour se déplacer jusqu'à des lieux de services publics, qui s'appellent éventuellement le médecin, l'hôpital, la poste, les impôts, ce genre de choses. Et donc, on voit qu'il est contraint par l'organisation du territoire à utiliser beaucoup d'énergie. Et ça, c'était pas le cas forcément il y a quelques décennies, parce que le territoire est organisé différemment, et c'est pas une fatalité. On peut organiser le territoire pour diminuer ce besoin d'énergie. Et donc, dans ce cas-là, si t'as une contrainte, si t'as un territoire qui est réorganisé de façon à ce que ce français soit pas trop loin de son travail, c'est pas facile à faire, hein. Soit pas trop loin de son travail, soit pas trop loin de ses lieux d'approvisionnement, soit pas trop loin de ses lieux de service public. Bon, bah, au final, le jour où il y a un stress énergétique, une contrainte énergétique, l'essence double dans la nuit, le prix de l'essence double dans la nuit, parce qu'il y a eu au hasard un assassinat en Iran, ou une attaque de drone en Arabie Saoudite, qui fait que voilà. Vu qu'il est moins contraint énergétiquement, vu qu'il n'est pas contraint de prendre sa voiture pour ses besoins basiques, travailler, manger et services publics, enfin on a même des moins un peu plus que basiques, c'est moins impactant pour lui. Il partira pas forcément en vacances à la mer cette année, ou peut-être qu'il partira moins loin en voiture, ou que sais-je, ou qu'il aura moins de loisirs pour aller au ski s'il est à Grenoble. Néanmoins, sa vie est moins impactée. Donc, on a des choses à réinventer qui sont de l'ordre de l'organisation. Mais l'organisation du territoire, c'est quelque chose qui est hautement politique aussi. Quelque chose qui est choisi par le politique. C'est pas quelque chose qui est technique. C'est pas quelque chose qui se décide dans un labo. Quelque chose qu'on décide collectivement. Donc, ouais. Et c'est pour ça que la solution, elle est avant tout politique. On va décider des trucs collectivement. On va décider qu'est-ce qui va être de l'efficacité, qu'est-ce qui va être de la sobriété, jusqu'où on veut se contraindre, quelle nuisance on est prêt à supporter pour ça, et peut-être même quelle nuisance on est prêt à faire supporter aux autres, parce qu'on n'est même pas obligé que ce soit un monde parfait, hein, c'est-à-dire quelle nuisance on est prêt à faire supporter aux voisins, Mais il va falloir qu'on décide tout ça. Et idéalement, il faut que ce soit décidé collectivement et pas par quelques-uns de façon extrêmement opaque. Et pour que cette décision soit éclairée, il faut que tout ce qu'on dit, toutes ces discussions qu'on a eues, cet échange, et en fait, pas que notre échange, mais les échanges que d'autres gens ont, parce qu'il n'y a pas que l'énergie qui est pertinente, hein. On a parlé de l'agriculture et de comment s'organiser le modèle agroalimentaire, on peut parler de il y a beaucoup d'exemples qui sont extrêmement structurants, dont il faudrait que les gens soient au moins un peu conscients, un peu informés, pour qu'ils voient que la prise de décision là-dessus, et c'est important qu'elle soit collective, c'est important qu'elle soit éclairée, parce que pour qu'elle soit, en plus qu'elle soit collective, ce qui serait pas mal, c'est qu'elle soit pertinente, qu'elle soit pertinente, il faut qu'elle soit éclairée par de la donnée, et en fait, c'est plutôt à ça que sert la science, plutôt qu'apporter des solutions miraculeuses. C'est apporter de la donnée intéressante, contextualisée,
des outils pour
des outils de réflexion
en conscience les décideurs politiques.
Et ça c'est plus important, enfin c'est plus important que la technique. Mais ce qu'il faut surtout pas, c'est dire que la technique c'est plus important que ça. La science, elle apporte de la donnée, elle apporte des outils de réflexion. La décision, elle doit être collective. Et ensuite la technique, c'est un truc qui vient.
Dans un monde en stress énergétique, qu'est-ce qui les citadins de grandes villes seront impactés aussi, parce que là on parle de personnes qui vivent en région, qui vivent dans des villes moyennes, et qui du coup va dans une zone commerciale pour faire ses achats, va dans une zone industrielle pour travailler, et puis vivre dans une zone résidentielle, et que tout ça est à 20 km de distance les uns des autres. Mais le citadin qui a même pas de voiture parce que à Lyon ou à Paris il y a un métro, il sera impacté par ce stress énergétique. Mais en quoi?
Alors il est impacté différemment parce que lui en fait il est dépendant d'autres formes. Enfin il est dépendant de structures qui sont plus grandes que lui, donc qui sont en général collectivisées, qui sont organisées par une structure qui est plus grande que lui, qui s'appelle un réseau de distribution. Donc en gros, là le problème c'est pas si lui ne peut pas aller à l'endroit d'approvisionnement, c'est si sa supérette en bas de chez lui, son épicerie ou son marché n'est plus approvisionné.
Donc, ou que les poubelles sont plus ramassées.
Ou que les poubelles sont plus ramassées, bien sûr. Et donc il est dépendant de toute une organisation collective qui elle subit la contrainte énergétique. Néanmoins, c'est plus simple d'optimiser. Alors, ça dépend pas mal de la taille, ça dépend exactement de quoi on parle. Voilà. Mais il y a un certain nombre de choses qu'il est plus simple d'optimiser quand c'est collectif. Mais de toute façon, on parle de trucs qui sont totalement structurants. Et effectivement, le lieu d'approvisionnement, si possible, il faut que le lieu d'approvisionnement dont on parlait ne soit pas trop dépendant de l'énergie pour s'approvisionner. C'est-à-dire qu'il s'approvisionne de façon le plus locale possible, ou en tout cas locale sur un certain nombre de produits de base, pour que ce soit pour pouvoir résister à un stress énergétique important, etc. Et il faut tout repenser.
Dans ce monde-là, le fait d'être locavore, c'est une réponse qui va dans le bon sens.
Le fait d'être locavore, oui, si le modèle agricole est dimensionné pour encaisser le fait que toute une zone soit locavore.
Oui, ce qui n'est pas le cas partout.
Ce qui n'est pas le cas partout, et typiquement, alors il se trouve que j'ai le chiffre en tête, mais il me semble que le territoire de Grenoble métropolitain, donc c'est Grenoble, la communauté de communes de 50 communes autour de Grenoble, je crois que ça fait quoi, 400 000 personnes, quelque chose comme ça. 3% de ce qui est consommé, je crois que c'est ça, hein, on va pas dire de bêtises, 3% de ce qui est consommé en termes de denrées alimentaires dans ce territoire-là vient effectivement de ce territoire-là. Bon, on voit que même pour un territoire qui est, on va dire, de la ville moyenne, on n'est pas sur une grande, on est pas sur une ville monstrueuse, qui est implantée en province. Visuellement, c'est quand même pas mal au milieu des champs. On a quand même une dépendance alimentaire à des réseaux qui sont un peu loin, qui est grande. Alors, un peu loin, ça peut être 100 km, ça peut être plus. Mais bon, il y a du boulot, quoi. C'est pareil pour Paris. On dit bien que les quelques champs qu'il y a autour de Paris qu'on est en train allègrement de bétonner
des centres commerciaux.
Pour faire des centres commerciaux, alors ça a été annulé, mais voilà, ne sont pas suffisants pour que si tous les Parisiens devenaient locavores la semaine prochaine, ils aient tous à manger. Donc, de fait, il y en aurait plein qui seraient locavores et morts de faim.
Oui, de toute façon, cette dynamique-là recréerait de l'emploi parce qu'il faudrait plus de gens et plus de gens qui sont occupés.
Oui, mais ça s'organise sur du long terme. Mais là, on est en train de parler du modèle agricole.
C'est une génération. Mais bon, non, en tout cas, c'est ce vers quoi nous amène la conclusion de cette série « Comment ça va le monde ?» sur la question de l'énergie. Après 5 heures d'émission, on se rend compte que le sujet n'est pas tari et qu'il s'ouvre sur plein d'autres problématiques qui sont très profondes dans l'organisation de la société et dans notre vie quotidienne. Valentin, je te remercie beaucoup pour cette année qu'on a passée ensemble et pour c'est le temps de verser notre petite larme. Et pour tout le travail qu'on a fait ensemble. Merci de nous avoir partagé tout ce savoir et ces réflexions qui sont très éclairantes et qui nous font prendre conscience de beaucoup de choses. On se retrouve peut-être la saison prochaine pour une nouvelle saison de Comment ça va le monde. Alors ce ne sera pas sur la question de l'énergie, mais sur l'alimentaire. Tu reviendras pour une chronique.
Oui, je choisirai l'invité le prochain, on fait un truc court.
Voilà.
Écoute, moi je te remercie beaucoup de m'avoir donné l'occasion de parler de ça. On en avait beaucoup parlé avant et c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est très difficile d'être exhaustif, c'est très difficile de rester pertinent, c'est très difficile de pas partir dans des tunnels d'argumentation un peu stériles ou un peu je chante à écouter, j'espère que j'ai pas fait ça, je suppose que je l'ai fait un peu. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Et si j'en ai fait, je suppose que les auditeurs enverront des remarques et on les lira.
Voilà, on les lira et puis on les mettra dans les références.
Tout à fait. Merci beaucoup et bonne continuation et j'écouterai la prochaine saison de Comment ça va le monde depuis mon canapé.
Merci. À bientôt sur les ondes de Radio Cygnos, carnetard.com, lacompagniecaravelle.fr et sur les podcasts Google et Apple.
C'est pas de revenir à un passé fantasmé qui a jamais existé, où on aurait été en équilibre avec une nature bien heureuse. Je crois que ça n'a jamais été le cas en fait. Faut vraiment inventer un avenir radicalement autre.
Le monde n'est pas fait pour nous faire plaisir.
C'est-à-dire que ce que ces gens-là n'ont pas compris, c'est que ça fait longtemps qu'on a dépassé la limite.
Le monde, que vous aimiez la théorie de la gravitation ou pas, les corps tombent, boum. Vous n'y pouvez pas grand-chose et c'est comme ça, quoi. Ça s'impose à la raison.
En déni absolu, même en tenant compte de la Chine, les inégalités ont augmenté dans le monde entier sur les 30 dernières années.
Donc c'est un truc extraordinairement difficile et ça n'en prend pas du tout le chemin, hein, puisque en ce moment, tous les vœux sont des vœux pieux. Donc c'est une tartufferie, voilà.
Quand on regarde les travaux du Global Footprint Network, les gens qui ont créé l'indicateur d'empreinte écologique et de biocapacité, qui ont créé le mode de calcul, pas le concept, mais le mode de calcul, et quand on regarde leurs études, ce qu'on voit, c'est que la courbe de l'empreinte écologique a dépassé la courbe de la biocapacité au début des années 70.
It is possible to take a different habit. But two, you have to think about it. It's not easy.
En France, on a signé des accords pour la réduction d'émissions de gaz carboné. L'année suivante, ça augmentait. Donc je veux dire, même un an après, on n'a pas été capable d'appliquer l'accord qui était, que nous avions, je crois, en partie initié.
Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là.
Adults keep saying we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. and then I want you to act.